Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus marche.
Jésus libère.
Jésus rétablit.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
On va prier pour la parole. Père Céleste, merci pour ta parole. Parce qu'elle est puissante. Et je te prie pour que ce matin, tu révèles à ton peuple ta parole. Tu révèles à ton peuple ton caractère de compassion. Oh, merci. Merci. Merci pour qui tu es. Pour qui tu es pour nous, Seigneur. Merci parce que nous avançons avec toi. Tu te révèles davantage à nous. Et ce matin, tu te révèles davantage à ton peuple. Au travers de ta parole. Merci, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Ce matin, on va parler de la compassion de Christ. Et on va lire un texte pour commencer qui est dans Lamentations, donc les Lamentations de Jérémie. Qui vont nous parler des compassions de Dieu. Lamentations chapitre 3 verset 22. C'est le livre du prophète Jérémie. Et il est dit: c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Vous savez, si vous lisez les Lamentations de Jérémie, c'est vraiment le verset qui crie de son cœur, ça.
Hein.
Mais si vous lisez le reste, ça va être difficile. Parce que Jérémie était très déprimé à ce moment. Parce qu'il voyait que Jérusalem avait été prise.
Hein.
Et que vraiment, il était très découragé.
Parce
qu'il voyait que son peuple, le peuple d'Israël, avait vraiment fait de tellement mauvaises choses que Dieu avait été obligé d'enlever sa protection sur Israël et que les ennemis ont pu prédominer sur Israël. Et ce verset, c'est vraiment un verset entouré dans vos Bibles. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Regardez comment Dieu s'est révélé à Moïse. Dans Exode 34, Dieu nous montre aussi son caractère de compassion. Puis pour ceux qui ne savent pas encore bien ce que c'est que la compassion, je vais vous expliquer scripturairement parlant ce que
c'est.
On va voir donc ce que veut dire vraiment la compassion de Christ. Moïse va avoir cette révélation absolument extraordinaire de Dieu. Il y avait eu différents événements et Dieu lui dit de tailler des tables de pierre. Et il lui dit donc de monter sur la montagne. Et là, Dieu va se révéler de façon
réveillée.
Il est dit au verset 5, l'Éternel descendit dans la nuée. La nuée, c'est le symbole de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu manifeste. Et se tint auprès de lui en proclamant le nom de l'Éternel.
Uhora hamanuka ari mu cyagicu ico gicu n'ikimenyetso cingana yigaragaza cy'ubwiza bwiwe ahagarana nawe aho hano yivuga izina kwa Ruhoraho.
L'Éternel passant devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance ou en bonté et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne le crime et le péché.
Uhoraho acimbere yiwe arivuga ati nduhoraho nduhoraho imana yuzuye imbabazi n'ubuntu ntibakuraka ngira ikigongo cyinshi mpora ndumwizigirwa.
Si vous étudiez donc toutes les alliances que Dieu a faites avec l'homme, vous verrez que toujours Dieu parle de sa compassion. Alors la compassion, on va définir ce que c'est. Et nous verrons comment
Christ
a exercé son ministère de compassion. Et comment nous aussi, cela peut et doit s'appliquer dans la prière quand nous prions pour les autres
parties.
Mais d'abord, on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire compassion. Il est très difficile de dissocier la compassion de la miséricorde. En français, en tout cas.
Imbabazi ni kigongwe bigomba kumera cyo kimwe.
Bon, le mot compassion, en fait,
compassion.
Ça vient d'un mot qui parle des entrailles, c'est-à-dire du plus profond de quelqu'un. En fait, de l'esprit d'une personne. Et en fait, c'est quelqu'un, ça pousse, cette compassion, c'est quelque chose qui pousse, c'est une sorte de sentiment, mais c'est difficile de parler d'un sentiment spirituel. Ça pousse à quelqu'un à s'occuper donc de quelqu'un qui est dans la détresse ou dans un besoin extrême. Qui est dans une difficulté dans laquelle il ne peut pas s'en sortir. Et ça pousse cette personne qui est remplie de compassion à venir chercher et aider cette autre personne. Et pour la faire sortir de sa difficulté, de sa détresse, de tout ce qui peut se passer comme situation difficile. Et il faut bien comprendre cela. Et nous verrons que la compassion ou la miséricorde n'a rien à voir avec la pitié. Avoir pitié de quelqu'un, c'est d'être triste pour lui. Quand tu dis par exemple j'ai vraiment pitié de celui-là. Ah, il est là, il est mendiant, il sent mauvais. Il est malade, on ne sait pas quoi faire. Ou quand on voit tout un tas de gens qui sont troublés par la guerre. On est là, on voit des dizaines de milliers de gens qui sont là, affamés, en train de
mourir.
On se dit non, vraiment, on a pitié de ces
gens-là.
Mais on ne sait pas quoi faire et on ne peut rien faire. La compassion n'a rien à voir avec ça. On va voir que la compassion, scripturairement parlant, c'est quelque chose de divin. Ça va être quelque chose de divin. Que d'une part Dieu déploie régulièrement vis-à-vis de l'homme, et d'autre part que nous pouvons nous aussi déployer dans certains cas en tant que chrétiens nés de nouveau. Une autre définition de la compassion, ça signifie de brûler intérieurement de tendresse, donc pas de sentiment, on ne parle pas de sentiment là, on parle vraiment de choses spirituelles, de quelque chose qui brûle dans votre cœur, non pas quelque chose qui vous dégoûte entre guillemets et vous dites celui-là il n'a pas de chance. On va continuer à définir parce que je vous compreniez bien. Vous savez, la religion nous a tordus au niveau de nos pensées.
Hein.
Parce que quand on parle des entrailles de miséricorde
hein,
ou de la pitié, Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur,
aie pitié de celui-ci. Tout ça, ça a toujours une connotation extrêmement religieuse. Qui n'a rien à voir.
Mais
strictement rien à voir. Avec la compassion divine. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui réagissent à des situations, particulièrement dans l'humanitaire. Ou des fois, vous voyez par exemple des gens qui sont là à la radio, qui font des interviews et qui sont en colère parce qu'ils voient des gens qui sont en train de mourir et ils essaient de les aider. Et puis, ils disent oui, telle organisation internationale ou tel truc, ils pourraient faire ça, ils ne le font pas. Et moi, quand je suis là sur le terrain, ça me rend malade. Des gens qui ouvrent des œuvres humaines parce qu'ils voient qu'il y a des besoins humains et ils essayent d'aider, et souvent ce sentiment-là c'est issu de la pitié,
mais
ce n'est pas la compassion divine. Dieu n'agit pas par un sentiment de pitié. Mais il agit par la compassion. Donc dans l'Ancien Testament, ça signifie vraiment brûler intérieurement de tendresse. Pour quelqu'un qui se trouve en difficulté, sur la faiblesse, la souffrance. Alors en fait, la vraie compassion, c'est vraiment quelqu'un qui s'identifie avec celui qui souffre. C'est un cri qui vient du plus profond de lui-même. Qui va utiliser en fait tous les moyens possibles pour aider cette personne à s'en sortir. Et la réelle compassion, c'est vraiment la manifestation et l'habilité de l'amour divin à faire sortir une personne. Donc Dieu fait sortir une personne par sa puissance. Et lui, il n'est pas limité par des moyens humains. Et Dieu fait sortir par sa puissance, par la manifestation de son amour, cette personne de la difficulté. Mais il y a cet aspect de s'identifier. Vous verrez vraiment, on va étudier les textes dans les évangiles. Vous serez vraiment étonné de voir ça. D'abord, la compassion de Dieu peut s'exercer envers la réponse à la soif du cœur humain. J'aimerais que vous compreniez une chose, mes amis. Dans ce monde, Dieu n'intervient pas selon les besoins. Les hommes, les grosses organisations internationales interviennent selon les besoins. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'intervient pas selon les besoins. Mais Dieu intervient selon les cœurs. C'est ce qui fait tout. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mélangent les choses. Dieu ne peut pas intervenir selon les besoins. Dieu intervient selon les cœurs. Dieu peut exercer sa compassion envers un cœur qui a soif et qui le cherche. Ça, oui. Mais envers un cœur qui n'a pas soif et qui ne le cherche pas, Dieu n'exerce pas sa compassion. Dieu n'exerce pas sa compassion. Le psaume 103, verset 13.
Alléluia.
Vous devez comprendre ces principes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens nés de nouveau, qui mélangent la compassion, la pitié, les choses humaines avec les choses divines. Et il faut être très clair par rapport à la parole de Dieu. Au psaume 103, verset 13, il est dit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Au Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28,
13.
Là encore, on voit que pour que la compassion de Dieu s'ouvre vis-à-vis de l'être humain, il faut que cet être ait soif de quelque chose. Il est dit, celui qui dissimule ou qui cache ses fautes ou ses transgressions ne réussit pas ou ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve compassion. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma
sœur,
que si tu es assis dans cette salle et que tu as reçu Christ comme ton sauveur personnel, Dieu a pu exercer sa compassion envers toi, te tirer de la boue du péché dans laquelle tu étais, dans laquelle j'étais, parce qu'un jour, j'ai reconnu, tu as reconnu que tu étais pécheur, j'ai reconnu, tu as reconnu que tu étais dans une situation impossible vis-à-vis de ton péché, que si tu continuais, si je continuais comme ça, alors, si je suis mort, si je mourrais, j'allais en faire. Et je ne savais pas quoi faire, et tu ne savais pas
quoi faire.
Et c'est pour ça qu'un jour, nous avons été au pied de la croix. Nous avons délaissé nos péchés. Nous avons confessé cela à Dieu. Et nous avons accepté Christ comme notre
Sauveur personnel.
Et c'est pour ça que Dieu a pu avoir compassion. Il nous a tendu la main au moment même
où
nous avons crié, Seigneur, sauve-moi. Il nous a retiré de la boue du péché. Nous a retiré des ténèbres pour nous amener, comme dit Colossiens 1.13 nous dit cela. Et c'est comme ça que Dieu a d'abord exercé sa compassion. Il nous a délivré du danger, littéralement, de l'autorité des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son
Fils.
Ça, ça a été la compassion de Dieu. Toi qui étais pécheur, moi qui étais pécheur. Nous étions souillés. Nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Fils et filles du diable. Mais Dieu qui est riche en bonté. Mais en miséricorde. Il nous a tendu la main. Il s'est arrangé pour que nous entendions la bonne nouvelle. Pour que nous puissions être touchés. Par sa compassion. Par sa compassion. Et quand tu t'es présenté devant lui pour la première fois, le cœur de Jésus battait. Et il te voyait tel que tu étais. Et il t'a dit, j'ai la solution. Viens à moi. Viens à moi. Et à ce moment-là, tu es venu à lui. Et il t'a tiré de cette boue. Ça, c'est ce que Dieu fait, mes amis. Parce qu'il nous aime d'une façon merveilleuse. Dans les évangiles, lorsque nous lisons bien les évangiles, il y a bien des fois où il est parlé d'une expression. Et là, on voit comment Jésus exerçait son ministère. La Bible nous parle souvent de cette expression « il fut ému de compassion ». Il fut ému de compassion. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, quand il est venu s'incarner sur cette terre, il y a 2000 ans, Jésus rencontrait des gens comme vous et moi. Vous savez, les problèmes de la terre, Pour l'instant, n'ont pas changé. Vous avez remarqué ça. Hein? Il ne faut pas un deuxième Jésus qui vienne en disant non, maintenant nous sommes dans le monde moderne. Les problèmes de la terre ont complètement changé. Jésus va revenir ou je vais en envoyer un autre, dit le Père, parce que finalement il faut résoudre d'autres problèmes. Lorsque Jésus exerçait son ministère, eh bien, les problèmes qu'il y avait à l'époque chez les hommes sont strictement les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui nous avons des téléphones portables, des télévisions et des voitures pour nous déplacer, mais peu importe, les problèmes de l'homme sont les mêmes. Jésus résolvait le problème du péché. Jésus résolvait le problème des démons. Quand les gens étaient possédés, ils voulaient être délivrés. Jésus guérissait. Jésus faisait des miracles de provision. Jésus sortait des gens de la pauvreté. Ce même Jésus qui réglait un certain nombre de problèmes il y a 2000 ans, et bien aujourd'hui encore, règle les mêmes problèmes. Parce que l'homme est toujours assujetti à certaines choses. À cause de la chute, à cause de ce que Adam et Ève ont légué un contrat de location sur la terre, et on voit bien des fois Jésus qui va intervenir, non pas selon les besoins là encore. Rappelez-vous d'une chose, Dieu n'agit pas selon les besoins. Il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui se font avoir avec ça et qui remettent en cause l'amour du Seigneur. Dieu n'agit pas selon les besoins, mais Dieu agit selon les cœurs. La compassion de
Christ
ne se manifestait pas vis-à-vis des gens qui ne voulaient pas de lui et qui étaient peut-être dans des besoins énormes, mais qui ne voulaient pas croire en lui. Regardons ensemble dans Matthieu 9,
versets 35 à 38.
La Bible nous dit, et Jésus avait un succès dans son ministère dans cette partie d'Israël
absolument
phénoménal. Vous savez, Jésus n'a pas eu un succès phénoménal partout en tant tout Israël.
Il y
a des endroits où vraiment il s'est passé des choses
formidables.
Et il y a d'autres endroits où il s'est passé peu de choses. Mais Jésus voulait parcourir toutes les villes et tous les villages. Donner une chance aux Israélites de pouvoir être touchés par sa compassion, par son amour. La Bible nous dit au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité.
Et
il est dit au verset 36, à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Abonye ishengero rimutera kagongwe kuko bari bagowe basabage nk'inama zitagira umwongere maze abwira abigisho biwe ati vyimbugwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake nuko nimwingingenye ni vyimbugwa arungike abimbuzi mu vyimbugwa vyiwe.
Voyez, le Seigneur était ému de compassion. Il voyait des gens le suivre de ville en ville, de village en village.
Et
vous savez, à l'époque, il n'y avait pas Western Union. Hein. Ils
ne
pouvaient pas se faire transférer de l'argent, ces gens-là qui se déplaçaient avec le Seigneur. Donc ils suivaient le Seigneur parce qu'ils savaient que Jésus était le Messie.
yuko Yesu ari Mesiya.
Bien d'entre eux avaient été touchés par sa puissance.
Bamwe benshi muri bo bari bakoze ko n'ubushobozi bwiwe.
Bien d'entre eux avaient été guéris.
Benshi muri bo bari barakize.
Bien d'entre eux avaient été délivrés des puissances démoniaques.
Benshi muri bo bari babohowe abadayimoni.
D'autres avaient vu de grandes choses.
Avanti bari babonye ibikomeye biva ku Mana.
Ils buvaient l'enseignement du Seigneur.
Nuko mugabaranywa basana bakwega.
Ils buvaient ses prédications.
Inyigisho ziba n'ubutumwa bwiwe.
Ils suivaient le Seigneur.
Baramukurikira.
Mais le problème,
ariko ingorane,
c'est que ces gens-là, ils étaient loin de leur maison.
Nuko abo bantu bari kure y'imihana yabo.
Et Jésus voyait bien.
Yesu arababona.
Il voyait que ces gens avaient soif. Et qu'il était le seul pour l'instant qui pouvait vraiment leur donner à boire et à manger spirituellement. Et Jésus voyait ces fous. Et il était remué.
Dans son cœur.
Vous savez, il y a des prédicateurs parfois. Ils ne veulent qu'une chose. Avoir du monde devant
eux.
Mais ils n'en ont rien à faire des gens. Ils les intéressent. C'est d'aller dire, il y avait 1,000 personnes devant
moi.
Ça, ce n'est pas, mes amis, être ému de compassion pour les gens. Ça, ce n'est pas avoir à cœur les gens envers qui on exerce un ministère. Jésus, lui, il voyait ces foules. Il
voyait
vraiment, ces gens-là, ils ont soif. Ils ont il y a peu d'ouvriers. Vous savez, un jour, des gens ont voulu faire Jésus le roi d'Israël. Il y a eu un moment où il a une popularité extrême. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre
6.
Et Jésus a refusé. Parce qu'il savait une chose. Que lui-même avait besoin aussi de faire naître de nouveau. Parce qu'il aurait, il serait mort et ressuscité avant. Il pourrait se révéler à tous ceux sur toute la terre qui invoqueraient le nom du Seigneur, qui se repentiraient de leurs péchés et qui l'accepteraient. Jésus savait ces choses. Et il a renoncé à ces choses, à être roi, parce qu'il savait une chose, qu'un jour il serait honoré par des millions et des centaines de milliers d'êtres humains qui l'auront accepté comme sauveur personnel. Jésus aurait pu continuer
son ministère,
mais Jésus ne l'a pas fait à cause de toi et à cause de moi. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, quiconque invoque le nom du Seigneur peut être touché par sa compassion et par son amour. Dans Matthieu 14, nous avons la même chose, mes amis. La même chose. Verset 13 encore. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. La foule l'a pris, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut compassion et guérit les infirmes, donc les malades qui s'y trouvaient.
Yesu abyumvise arahava, agenda mu bwato aja ahantu hagahinga kwihererayo. Isengero ryumvise riva mu bisagara rimukurikira rijanye inkokoro no kugendera ku nkengera ku nkombe. Avuye mu bwato abona isengero ryinshi rimutera kagongwe abakiriza abagwaye.
Là, on voit que Jésus exerce son ministère de guérison envers les malades par compassion, non pas par gloire, par glorieuse, pour aller se vanter. J'ai prié pour lui, il a été guéri. Pas du tout, du tout, du tout.
Oh, yeah.
Ça, c'est pas le cœur du Seigneur. C'est pas le cœur du Seigneur. C'est pas du tout le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'était d'aller vers les gens qui avaient soif de lui. Qui voulait croire en lui pour qu'il puisse être touché par sa puissance. C'était ça le cœur du Seigneur. Regardons ensemble encore dans Matthieu 20, verset 34. Il y a plein de références. Matthieu 20, 34. Jésus va se retrouver encore dans une situation avec des malades. Il est dit, saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrirent la vue et le
suivirent.
Dans Marc 1, 45, c'est la même chose. Il y a des lépreux qui sont là, qui vient vers Jésus. Et qui lui dit, si tu veux, tu peux
m'enlever.
Et il lui dit, Jésus, ému de compassion.
abagirira ikigo.
Jésus ému de compassion.
Yesu arakogwako n'ikigo
agira ikigo.
Agira ikigongwe.
Dans Luc chapitre 7 au verset 13 encore.
Muri Luke kigabane cinzo murongo wa 13 naho nyene.
C'est la résurrection du fils de la veuve de Naïna.
Nigihe yazura wa muhongo mupfakazi w'Inaïne.
Jésus est suivi par une grande foule.
Yesu yarakurikiwe n'isinzi ry'abantu.
Il rentre dans une ville, à Naïna.
Yinjira mu gisagara c'Inaïne.
Et d'un seul coup, il y a une autre grande foule.
Mu mwanya muto abona irindi sinzi ry'abantu.
Mais cette grande foule
ariko iryo sinzi naryo
n'est pas là pour la vie. Cette foule est là pour enterrer un mort. Et Jésus, d'un seul coup, est saisi par la puissance de Dieu. Et il est ému de compassion. Il apprend cela. Cet enfant est mort. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Dans son cœur, dans son esprit, Jésus s'approche du cercueil. Et dit à cette femme, ne crains pas. Et il ressuscite cette femme. Ne pleure pas. Il ressuscite, pardon, cet enfant. Il ressuscite cet enfant. Il touche le cercueil. Mais c'était quoi? C'était de toucher le cercueil qui a amené la résurrection. C'était de toucher le lépreux qui va amener sa guérison. C'était de toucher les malades qui amenaient la guérison. Non, mes amis. C'était la compassion. C'était la compassion. C'était le cœur de Christ envers les situations des hommes. Imaginez-vous un peu. Jésus s'est retrouvé là devant des gens. Rappelez-vous d'une chose. Le jour où Adam et Ève ont été créés, qui a créé Adam et Ève? C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus. Et Jésus n'a pas créé Adam et Ève ainsi. Il ne les a pas créés pauvres. Il ne les a pas créés avec tout un tas de besoins. Mais quand nous lisons comment le Seigneur a créé Adam et Ève, d'une façon merveilleuse. Imaginez-vous ce même Jésus 4000 ans plus tard, parce qu'Adam et Ève ont été créés 4000 ans avant Jésus. 4000 ans plus tard, Dieu le Fils là est incarné
et
il est en face de ceux qu'il voit souffrir, mais qui ont
soif
d'avoir leur vie touchée par la puissance de Dieu. Et là le cœur de Jésus est interpellé parce qu'il est venu pour cela. Il est venu pour cela. Il est venu pour apporter une solution. Il
n'est
pas venu pour soulager la misère. Vous voyez, l'homme, les hommes peuvent s'associer pour soulager on appelle ça la solidarité.
Mais
ça c'est humain. Bon, c'est bien, c'est bien dans le naturel. Mais ces choses n'ont rien de divin. Jésus n'était pas là pour soulager d'une façon humaine. Jésus était là pour répondre à des situations impossibles. Et rappelez-vous la motivation de Jésus. C'était la compassion. Là, il brûlait de tendresse. Quand ce lépreux s'est approché de lui, il y a quelque chose qui brûlait dans l'esprit. Dans l'esprit du Seigneur, ça brûlait. Je veux soit pur. Et la puissance de Dieu lui est tombée. D'autres fois, il a touché des yeux des aveugles. Et là encore, mes amis, là encore, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Jésus est agissait par compassion. Il n'agissait pas par des sentiments. Jésus agissait. C'est difficile de se mouvoir. C'est difficile en français de trouver un bon. Était poussé, oui, si on veut, par la compassion.
Nous kuvuga Yesu yarasunitswe. Nous kuvuga umuriro warabira muri we ugasa nk'ukari uwo muriro mutwara.
C'est ça qui a amené la solution.
Icyo nicyo cyatumenye ishuzi.
La solution aux êtres humains.
Aha abana b'abantu. Amen.
Jésus ne pouvait pas supporter.
Yesu ntiyashobora kwemera.
Et ne le peut toujours pas.
Kandi n'ubu ntashobora kwemera.
Voir la nature humaine.
Kubona umwana w'umuntu apfutanye.
Vous pensez que quand nous passons à côté de gens qui sont estropiés,
même mwibaza iyo duciye hafi y'abantu
Dieu se réjouit de ça. Quelqu'un qui n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, qui est en train de mourir de faim, vous pensez que Dieu se réjouit de ça? Si vous pensez ces choses,
mes amis,
si vous n'avez rien compris à l'évangile, vous n'avez rien compris à l'évangile. Mais rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous d'une chose. Dieu peut toucher n'importe quelle situation avec un cœur qui a soif. Pas selon la pitié. Mais avec un cœur qui a soif. Il y a un super exemple. Le meilleur des exemples que nous avons de la compassion du Seigneur, c'est dans Jean chapitre 11. Je vous garantis, relisez cette histoire. Après que vous ayez fini d'entendre ce sermon, et vraiment avec la perspective de la compassion de Christ dans cette famille, c'était absolument fabuleux. Vous savez que Marthe, Marie et Lazare étaient des amis de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que Lazare va mourir. Il va tomber très malade. Et il va mourir. Et il va se passer quelque chose vraiment de fabuleux. Ici au verset 32, comment dire, donc Lazare décède, il l'enterre. Et il est dit au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, donc Jésus arrive, mais il arrive plus tard, donc une fois que Lazare est mort et qu'il l'avait déjà enterré, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, regardez bien le reproche, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Maria kumurongo wa 32 Maria ashitse aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'inkorozi y'ibirenge vyiwe ati mugenzi asa n'umwagiriza gato iyuba wari hano musaza wanje ntaba yahwereye.
Seigneur, si tu avais été ici.
Iyaba wanyarutse.
Mon frère ne serait pas mort.
Musaza wanje ntaba yahwereye.
J'imagine un petit peu ce que Jésus a pu ressentir à ce moment-là. Mais Jésus exerçait son ministère. On l'avait prévenu que Lazare était déjà malade. Mais il avait senti dans son esprit qu'il devait continuer à être là où il était. Vous savez, c'est jamais trop tard pour Christ. Ça dépend de notre soif. Ça dépend vraiment de notre soif. Je vous garantis, quelqu'un qui a soif verra Dieu le toucher d'une façon extraordinaire. Quelqu'un qui n'a pas soif, il va prier, il va gémir, il va pleurnicher devant Dieu. Il ne verra rien. Il ne verra rien. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et devant la défaite et l'échec, ils disent, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi t'as permis ça, Seigneur? Pourquoi est-ce que t'as permis ça dans
ma vie?
Tu vois, Seigneur, ça me détruit.
Vous
pensez que Jésus ne connaît pas vos situations? Vous pensez que Jésus ne connaît pas toutes choses? Il nous connaît chacun de nous. Il sait exactement ce que nous pensons, ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait exactement notre soif, notre soif de lui. Il connaît exactement ta situation, quelle soit. Quelle qu'elle soit, il la connaît exactement. Donc, Marie dit cela. Il dit, si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort.
Alléluia.
Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, d'un seul coup, il va se passer quelque chose au plus profond de Jésus. Il est dit, il frémit dans son esprit. Lorsque Jésus va voir cette famille qui croyait en lui et qui était dans cet état-là, il va se passer quelque chose à
l'intérieur.
C'est quelque chose qui est divin, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qui est humain. Jésus, quand il les a vus pleurer, il n'a pas eu pitié de... Jésus n'a pas eu pitié en disant, mes pauvres, pour les
sœurs,
vraiment, je sais, Lazare, c'était vraiment votre frère. Je le connaissais, je me souviens de lui. Il était là, on parlait ensemble souvent. Je sais qu'il vous rendait de grands services. C'était le grand de la famille, l'aîné de la famille. J'en sais rien, peut-être.
Oui,
toutes ces histoires-là. C'est bien de consoler selon l'homme. Mais Jésus est là pour autre chose. Il est là pour autre chose, mes amis. Et ça, j'aimerais que ça passe ce matin, mes amis. Il est là pour autre chose. Il n'est pas là pour une consolation humaine. Il y a trop de gens qui cherchent dans le Seigneur une consolation humaine.
Ce
n'est pas ça que Dieu veut apporter. Dieu veut apporter la solution. Jésus à l'intérieur de lui. Il était en train de se passer quelque chose. Qui est la vraie compassion. La vraie compassion. Dans son esprit. La Bible nous dit qu'il a frémi. Le verbe grec ici, il est quasiment dit, il eut un sentiment d'une grande violence, littéralement. Et certainement que le Saint-Esprit, à ce moment-là, a commencé à mettre des choses dans le cœur de Jésus pour qu'il puisse sortir, pour qu'il puisse aider cette famille, exercer la compassion divine, les aider à sortir. De cette situation. La Bible nous dit au verset 35. Jésus pleura. C'est la seule fois où vous verrez ça dans la Bible. Jésus pleura. Mais Jésus n'a pas pleuré de tristesse. Jésus voyait la misère de l'être humain à cause du péché. Lui est créateur des cieux et de la terre. D'un seul coup, Jésus voyait la misère. La misère de l'être humain. Vous savez, la mort n'a jamais été dans le plan de Dieu. Ça a été que dans sa volonté permissive après, à cause du péché. Mais au départ, l'homme a été créé, avait été créé pour vivre éternellement, mes amis. Et là, on voit une chose. Jésus pleure devant cette misère. Mais d'un autre côté, il savait ce qu'il allait se passer. Verset 36, il est dit, les Juifs dirent donc, voyez comme ils l'aimaient. Et quelques-uns, alors voyez comme ils l'aimaient. Ils pensaient que, eux, les Juifs pensaient que Jésus pleurait de pitié, parce que bon, ils se joignaient aux autres qui pleuraient.
Et
au verset 37, ils vont dire quelque chose. Mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point?
Et
là encore, Jésus frémissant de nouveau dans son esprit. Au plus profond de lui-même. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. La compassion de Dieu va se lever dans l'esprit de Jésus. Et c'est là, mes amis, où la gloire de Dieu va se manifester. Où Jésus va recevoir ce qu'il faut de la part du Saint-Esprit pour pouvoir ressusciter
Lazare.
Et il ressuscitera Lazare. Il ramènera Lazare à sa famille. Ça, c'est la compassion de Jésus. La compassion de Jésus. La compassion de Jésus qui est en manifestation. Vous savez, Christ a eu compassion de tous ceux envers qui il a exercé un ministère quand il était sur la terre. Mais c'est la même chose aujourd'hui. C'est strictement la même chose aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Il y a une application pour nous par rapport à notre vie de prière. Vous savez, il y a trop de gens qui prient selon leur intelligence. Ils prient selon leur intelligence. Moi, je vais vous dire une chose. Quand il y a des gens qui me demandent de prier pour eux, si je vraiment, mon cœur ne vibre pas, je n'aime vraiment pas prier pour ces personnes. Parce que je ne suis pas en mesure à ce moment-là de les aider dans une solution. Vous savez, quand vous priez pour les autres,
par exemple,
vous priez pour des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils prient, ils crient devant Dieu, comme si Dieu était quelqu'un de bizarre. C'est tout juste s'ils ne crient pas sur Dieu. Oh, notre Dieu, fais ceci, cela! Et Dieu dit, oui, oui, je vais le faire. Bien, chef. Oui, chef, tout de suite, chef. Misérable. Je
ne
vois pas du tout Jésus faire ça. Mais pas du tout, du tout. Pas du tout faire ça. Non, Jésus, lui, il s'adressait à son Père avec cette intimité qu'il avait avec
lui.
Jésus, ému de compassion, va intervenir dans la vie des hommes d'une façon merveilleuse. Et je vous dis, quand vous priez pour quelqu'un, regardez avec quel cœur vous faites ça. Oui, Seigneur, je te prie pour un tel. Tu vois, Seigneur, ce grand pécheur. Tu vois, Seigneur, sauve-le parce qu'il commence à m'ennuyer, il me dérange beaucoup, Seigneur. Amen. Comment voulez-vous voir Dieu intervenir dans vos situations?
Que
cette compassion puisse toucher cette personne. Non, mes amis. Rappelez-vous d'une chose. La compassion, c'est s'identifier à une personne. Quand vous commencez à prier pour quelqu'un, et vous savez, le plus difficile, et ça je le sais, le plus difficile, c'est de prier pour quelqu'un que vous connaissez très 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 bien, dont vous connaissez quasiment tous les défauts, vraiment que vous connaissez très très bien, et d'entrer vraiment dans la compassion de Dieu. C'est-à-dire de comprendre que cette personne est pécheresse et qu'elle a besoin de Dieu. Quand tu pries pour un malade, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Si tu partages la parole de Dieu quelque part dans les groupes à droite, à gauche, quelle est ton attitude? Pose-toi ces questions-là. Si tu amènes quelqu'un au Seigneur et que tu veux prier pour cette personne, quelle est ton attitude? Est-ce que c'est vraiment une attitude qui est méprisable, pleine d'orgueil? Ou est-ce que c'est parce que dans ton cœur il y a quelque chose qui sort, qui pleure, qui brûle de tendresse pour cette personne? Et parce que tu veux voir cette personne être touché par le ciel. C'est quoi ta motivation? Je vous garantis, certains d'entre vous, vous ne voyez pas des résultats que vous aimeriez voir parce que votre motivation est mauvaise. Vous savez, nous avons besoin d'être touchés par la compassion de Dieu et de ressentir ce que le Seigneur ressent quand nous prions pour les gens. Vous savez, quand vous priez pour un pécheur, pour qu'il vienne à Christ, il y a vraiment quelque chose qui doit se produire dans votre cœur. Sinon, ça ne touchera pas le Seigneur. Sinon, c'est de votre tête. Votre esprit n'est pas impliqué. Mais quand vous réalisez vraiment cette personne, si elle quitte cette terre sans avoir reçu Jésus-Christ, misérable pour l'éternité, il y a quelque chose qui doit brûler, mes amis. Il y a quelque chose qui doit brûler dans le peuple. Cet amour divin, cette compassion divine, quand nous voulons prier pour des gens. Et tant que tu n'es pas comme ça, mets-toi devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai pas de compassion pour cette personne. J'arrive pas à entrer dans cette compassion pour voir vraiment le ciel toucher cette situation, toucher cette personne. Je vous garantis, quand vous rentrez dans cela, à l'image de Christ, c'est là où nous voyons les plus belles choses. Je vais vous donner l'exemple un jour d'un homme de Dieu. On terminera par ce témoignage. Donc, cet homme s'appelait John G. Lake, et en fait c'était un Américain que Dieu avait envoyé en Afrique du Sud. Il y a à peu près un siècle maintenant, vers 1908. Et en fait, il, a, bon, il avait vraiment un puissant ministère de guérison. Et cet homme, au travers de son ministère, avait vraiment vu des milliers, des dizaines de milliers de guérisons. Oui, documenté, vraiment des trucs. Vraiment des choses très puissantes. Et il y avait un certain nombre de gens du gouvernement qui avaient été touchés au travers de son ministère. Il avait une église, donc, enfin, des églises, mais une particulièrement à Johannesburg. Et il y avait quelqu'un qui était dans le gouvernement dont la femme était en train de mourir du cancer. Donc John Gillet a été voir cette dame et il a vu que cette femme bon, était chrétienne, mais de nouveau, et que cette femme était dans un stade qu'on appelle avancé du cancer terminal, c'est-à-dire qu'elle était presque en train de mourir. Mais elle croyait dans la guérison divine. Et elle a dit, moi je me confie en Dieu pour ma guérison. Donc John Gillet l'a encouragé dans la parole. Et pendant une période, donc, on lui donnait des médicaments pour soulager sa douleur. Et après, au bout d'un moment, donc, elle a dit, non, moi je mets ma confiance dans le Seigneur, je vais arrêter les médicaments. C'était quelqu'un qui avait la foi. Et elle souffrait tellement, elle hurlait tellement de douleur, qu'il y avait donc d'autres pasteurs de l'église de John Gillet qui étaient là, et 24 heures sur 24, ils priaient pour cette
personne.
Et John Gillet avait passé toute une nuit dans la prière.
John Gillet era amaze rero ijoro ryose ariko arasenga.
Il était retourné donc chez lui pour se changer, se laver, etc.
Asubiri wiwe kugira yitegurira ibikorane bindi.
Et puis il est revenu vers la maison donc de cette femme.
Hama munyuma aragaruka mu nzu y'uwo mugore.
Et il raconte la chose suivante.
Hama rero wewe aravuga ngo.
Quand il est arrivé à peu près à 50 mètres.
Igihe yashitse nko ku metero 50.
De la maison de cette femme.
Ziyo nzu
il a entendu des cris de douleur.
Yumva wa mugore ariko arakominduru kubera umubabaro.
Tellement fort donc que cette femme était à plus de 50 mètres de lui dans sa maison.
Uyu mugore
et cette femme souffrait tellement, elle hurlait tellement fort que John Dillek a pu l'entendre à plus de 50 mètres. Et il dit à ce moment-là, il y a une compassion divine qui est venue dans son esprit. Il raconte qu'il a eu ce sentiment puissant dans son cœur, cette identification avec cette femme dans sa souffrance pour pouvoir la faire sortir. Vous voyez comment la religion nous a tordu. La pitié où les gens disent, ah, tu souffres mon pauvre vieux, etc. Vraiment, je compatis à tes souffrances. Ceci n'a rien à voir avec la compassion de Dieu. Et John Gillet a été saisi. Et il dit, j'ai couru dans sa maison, je ne savais même pas où je courais. Il a été jusque dans la maison de cette dame. Il a pris son corps qui était tout fragilisé. Il a serré très fort. Et il s'est mis à pleurer de la compassion divine. Et au moment où il a fait ça, la puissance de Dieu est tombée. Entièrement. Ça, c'est la compassion divine.
Vous
voyez la différence? Ça, c'est la compassion divine. C'est tout ce qui fait la différence. La pitié, c'est humain, mes amis. Mais la compassion divine, c'est ce qui amène des solutions. C'est ce qui amène des solutions. Et c'est ça, mes amis. Ça, c'est Dieu. C'est un trait de caractère de Dieu qui est absolument extraordinaire et qui peut justement nous amener nous-mêmes à ressentir ce que Jésus ressent. Vous savez, souvent dans les situations difficiles, nous n'arrivons pas à ressentir ce que Jésus ressent. Et bon, nous disons, bon, bah tant pis, c'est la défaite, c'est pas grave. C'est vrai, il est au ciel,
Mais
Bon, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais moi, je sais qu'il y a plus. Et moi, je veux voir plus. Je sais pas qu'en est-il de vous. Mais moi, je veux voir plus. Moi, je veux voir Dieu m'utiliser dans cette
relation.
Quand je prie pour les gens,
quand
je veux voir ces choses. Mon cœur qui brûle.
Quand
je peux prier pour quelqu'un. Pour voir ces personnes. Pour voir ces situations
difficiles.
On va tous se lever. On va passer.
Abikeneye turavyifuza turabishaka.
Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Gloire à toi, Seigneur.
Haleluya. Haleluya.
S'il vous plaît, levez-vous tous. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Levez vos mains, mon Seigneur.
Mon moto, guérissez mes gars.
Il y a plusieurs choses que le Seigneur veut nous faire réaliser ce matin. D'abord, sache une chose. Tu es peut-être dans des difficultés. Mais Jésus sait. Il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu ressens. Il sait exactement ce que tu ressens. Il sait exactement ce que tu ressens. Mais ouvre la porte.
Allez, Koguru Romotin.
Ouvre la porte.
Koguru Romotin.
Pour qu'il puisse te toucher.
Kugirango Koreko.
Parce que le problème de beaucoup de chrétiens,
c'est
qu'ils entendent le message.
Et
dans l'église, vous entendez le message. Mais encore faut-il, mes amis, que ce message vous touche. Qu'il vous touche. Qu'il pénètre dans votre être. Dans votre esprit. Et qu'il change vos situations. Vous savez, Jésus s'est donné à la croix parce qu'il savait qu'un jour vous seriez là. Il s'est donné à la croix parce qu'il savait qu'un jour vous seriez là. Et quelle que soit la situation que tu traverses, peut-être être une situation de péché, peut-être que tu n'es pas sauvé. Tu as besoin d'être. Il veut exercer sa compassion envers toi. Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang pour ton péché. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Que tu puisses être libéré. Délivré de ton péché. Et que tu puisses avoir le ciel en héritage. C'est ce que Jésus est venu apporter. C'est ce que Jésus est venu apporter. Et ce matin, tu es peut-être venu ici en visiteur. Ou peut-être que tu es venu déjà un certain nombre de fois. Et tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas été touché par son amour. Tu n'as pas été touché par son amour, par sa compassion. Il t'aime. Il sait exactement ce que tu penses, ce que tu as fait avant et ce que tu feras demain. Il sait exactement ce qu'il veut, c'est te toucher. Ce qu'il veut, c'est te sauver. Ce qu'il veut, c'est te délivrer. Te délivrer de ton péché. Maintenant. Parce que rappelle-toi d'une chose. La compassion. La compassion. C'est ce qui brûle dans le cœur de Jésus. Pour retirer une personne de sa situation. De sa mauvaise situation. Qu'est-ce que tu dois faire pour recevoir Christ? C'est très simple. D'abord, tu dois savoir que être un vrai chrétien, ça commence par un miracle. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle
naissance.
Un homme n'est pas seulement de la chair. Le jour où tu vas mourir, il y a quelque chose qui va sortir de toi. Ton corps, c'est ton esprit. Et ce jour-là, tu as plutôt intérêt avant d'être sûr d'avoir reçu Christ. Parce que si tu n'as pas reçu Christ sur cette terre, comme ton sauveur personnel, tu descendras en enfer et ce sera trop tard. Par contre, tu as l'opportunité de recevoir Jésus. Jésus t'aime. Son cœur brûle d'amour pour toi parce qu'il veut te dire bien. J'ai payé pour ton péché, j'ai versé mon sang pour que tu puisses être délivré. Son cœur brûle parce qu'il sait que tu es dans le péché et qu'il veut te délivrer de ton péché et te donner une vie nouvelle. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de relation. Il est mort à la croix pour toi. Il est ressuscité pour que tu puisses hériter de la vie éternelle parce qu'il t'aime. Son cœur brûle pour toi. Si c'est toi ce matin et que tu dis pasteur Olivier, moi tu sais, je n'ai jamais reçu Jésus, mais je comprends ce matin qu'il m'aime, qu'il veut me délivrer de mon péché. Je suis sale à l'intérieur, mais je veux ce Jésus. Je veux faire partie aussi du peuple de Dieu. Je veux faire partie du peuple de Dieu. Si c'est toi ce matin que tu veux prendre la décision la plus importante de ta vie, c'est la décision la plus importante. Simplement, tu lèves ta main. Tu te dis, moi, ma soeur, je veux recevoir Jésus. Je veux recevoir Jésus. Qui veulent naître de nouveau, être touchés par sa puissance. Au balcon, qui veut recevoir Jésus?
Alléluia.
Qui veut recevoir
Alléluia.
Jésus? Mais ceux qui lèvent leurs mains maintenant, descendez ici. On va prier pour vous.
Approchez-vous.
Parce qu'on va prier pour vous. Parce qu'on veut vous voir
sauvés.
Ceux qui ont levé leurs mains. Son cœur brûle. Son cœur brûle d'amour pour toi.
Alléluia.
Son cœur brûle d'amour pour toi. Son cœur brûle d'amour pour toi.
Karibu hanimbere, karibu, karibu, karibu.
Ce qu'il veut, c'est te toucher. C'est te délivrer de ton péché. C'est de t'amener dans une relation vivante avec lui. Parce qu'il t'aime.
Il ne veut pas que tu restes dans cette situation.
C'est sa compassion.
Mimbama,
son cœur d'amour qui brûle et qui dit, je veux que tu deviennes mon enfant.
Oh, karibu, 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 quoi, yes.
Il y a d'autres personnes qui doivent recevoir
le Seigneur. Yes.
On n'est pas en train de jouer. Ces gens-là ne sont pas en train de jouer. Mais...